on a souvent tendance à se dire que nous-mêmes, à notre échelle, on n'a quasiment aucun impact sur l'environnement et la société. Ou même qu'à l'échelle de notre entreprise, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est une toute petite entreprise. Et pourtant, 50% des salariés français sont dans de petites et très petites entreprises. Et c'est principalement pour ces TPE et PME que Greenscale, qui soutient ce podcast, propose des évaluations d'impact environnemental et sociétal. À partir de 800 euros, découvrez quels sont les impacts maîtrisés et ceux sur lesquels votre entreprise doit mener des actions. Il vous conseille sur des actions prioritaires et sur les indicateurs à mettre en place. Et vous verrez que de l'impact, vous pouvez en avoir. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui sur le podcast, on va parler d'un sujet méconnu, mais hyper important pour le climat. J'ai nommé l'épargne, et surtout l'épargne salariale. Vous savez, l'argent placé via votre entreprise que vous ne pouvez débloquer que sous certaines conditions. Cette épargne, mise entre les mains de gestionnaires d'actifs, peut financer, sans que vous le sachiez, de nouveaux projets d'énergie fossile. Et ça, même si c'est un fonds bas carbone, vert ou label ISR. Ça craint. Je dois avouer que la finance est un monde obscur pour moi. Et je suis ravie que Julie Sans Souci, chargée de campagne pour l'ONG Reclaim Finance, soit au micro d'Écolo au boulot aujourd'hui pour nous expliquer tout ça et nous aider à mettre des solutions en place pour financer la transition écologique plutôt que le gaz, le charbon ou le pétrole. Je vous laisse écouter cette super entrevue. Bonjour Julie, merci d'être sur Écolo au boulot.
Bonjour Cassandre.
Alors, pour commencer, pour que tout le monde sache ce qu'est Reclaim Finance, est-ce que tu peux nous présenter l'association et puis aussi nous dire quel est ton rôle ?
Ça marche. Écoute, Reclaim Finance, c'est une ONG qui s'attaque au problème du dérèglement climatique. Et j'aime bien dire que cette ONG, elle s'attaque à ce problème-là par la racine, en faisant pression en fait sur les soutiens financiers au développement de nouveaux projets fossiles. Et mon rôle dans cette ONG, c'est de mettre en mouvement les acteurs de la société civile sur ce qui lie finance et climat. Alors, ça peut être des acteurs comme des entreprises, ça peut être des collectivités, des salariés, des particuliers. Et en fait, on a tous un rôle à jouer pour veiller à ce que son argent aille au bon endroit.
Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel est ton quotidien de chargé de campagne? Enfin, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour qu'on arrive à se projeter ?
Et du coup, ça dépend des campagnes sur lesquelles je vais travailler. Mais du coup, en ce moment, ce qui m'occupe beaucoup, c'est le sujet de l'épargne salariale. Et ce que je fais au quotidien, ça va être... Il y a un rôle beaucoup d'accompagnement d'entreprise. Donc, ça va être discuter avec des salariés d'entreprise, répondre à leurs questions. Il y a aussi un enjeu d'analyse. Donc là, ça va être analyser les pratiques des acteurs financiers, analyser les fonds d'épargne salariale, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà à quoi ressemble ma journée.
Ok, donc intéressant déjà de savoir qu'on peut s'adresser a priori à ton ONG si on a des questions sur l'épargne salariale.
Oui, tout à fait.
Ok. Alors, donc, en effet, on va entrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'épargne salariale, on voit que, en effet, c'est un levier d'action pour pouvoir placer de l'argent au profit de projets à impact positif, mais ce n'est pas toujours le cas et on n'a pas forcément toujours cette transparence-là de où sont placés ces fonds. Justement, quand on parle de fonds financiers à différents acteurs et quand toi, tu fais une campagne sur l'épargne salariale, en fait, cette campagne, à qui elle s'adresse ? Est-ce que c'est aux entreprises ? Est-ce que c'est aux gestionnaires des fonds ? Enfin, c'est qui les acteurs différents qu'on va retrouver autour de ce projet-là ?
Alors, au niveau des acteurs qu'on adresse, ça va être les acteurs financiers dans leur ensemble. L'ONG Reclaim Finance pousse aussi bien les banques, les gestionnaires d'actifs ou les assureurs à évoluer dans leurs pratiques. Et du coup, pour le grand public, il y a des acteurs qu'on connaît assez bien. Ce à quoi on va penser en premier, c'est les banques qu'on connaît, parce qu'elles ont pignon sur rue. Ça va être Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, il y a Banque Populaire, Caisse d'Épargne, etc. Donc ça, souvent, c'est des noms qui se retrouvent assez souvent dans la rue, quand on marche, tout simplement. Et on voit ça souvent comme des banques des particuliers. Nous, on appelle ça des banques de détail. Mais en fait, ces banques-là, elles ont aussi une branche qui offre des services financiers à des grandes entreprises. Et du coup, ça s'appelle une banque d'investissement. C'est-à-dire que Crédit Agricole ne va pas seulement prêter à ton voisin. Crédit Agricole va aussi prêter à des grosses entreprises. Et il faut savoir que les 60 plus grandes banques mondiales, elles financent énormément les énergies fossiles. Elles ont versé près de 5 500 milliards de dollars aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris, depuis 2016. Et du coup, on voit bien que ces banques-là, c'est des soutiens, des béquilles essentielles à l'économie, et là, en l'occurrence, à l'industrie fossile. Donc, c'est problématique. Et nos banques françaises, elles ne sont pas en reste dans tout ça. BNP Paribas, par exemple, c'est le premier soutien de BP, d'Eni, de Shell. Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, c'est les trois premiers soutiens de Total Energy. Donc voilà, ça a beau être des banques françaises, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a en fait tout cet impact financier derrière, mais c'est des colosses qui jouent aussi dans la cour des grands, même à l'échelle internationale. Et du coup, ces mastodontes, elles ont aussi également une branche de gestion d'actifs qu'on connaît peut-être moins et qui nous intéresse un peu plus pour le cas de l'épargne salariale. Et là, ça va être des acteurs qui sont souvent moins identifiés. Ça va être des noms comme Amundi ou alors Natixis IM, etc. Et en fait, Amundi, c'est la filiale de Crédit Agricole. Amundi, aujourd'hui, c'est le premier gestionnaire d'actifs en France. Et du coup, voilà, c'est important de faire ces liens-là. Il y a aussi BNP Paribas AM, toutes les gros mastodontes financiers que j'ai pu nommer avant, en fait, ont leur branche de gestion d'actifs.
Ok, donc ça veut dire qu'une entreprise qui investit dans les énergies fossiles, elle peut se faire financer par les grandes banques classiques et que cet argent, il va venir soit des particuliers, l'épargne qu'on place, mais aussi tous les actifs qui sont placés. En fait, c'est les fonds qui sont placés, ils viennent d'où ?
Il y a différents, on va dire que là, pareil, il y a différents acteurs et différents services. Quand on parle vraiment de la banque d'investissement, une banque d'investissement, elle va financer une entreprise des fossiles par le prêt, en faisant des prêts, en fait, à des acteurs comme Total Energy, par exemple. Et les gestionnaires d'actifs, donc ce qu'on évoquait auparavant, les gestionnaires d'actifs vont investir dans des entreprises. Donc, quand je dis investir dans des entreprises, c'est différent du prêt parce que ça va être détenir des actions ou des obligations de ces entreprises-là. Mais c'est une autre manière, en fait, de soutenir financièrement une entreprise. Et comme tu dis, l'argent qu'elles vont utiliser, ces sociétés de gestion, c'est l'argent des épargnants. Et dans le cas de l'épargne salariale, par exemple, avoir de l'argent investi sur un fonds d'épargne salariale chez, par exemple, Amundi, la conséquence, c'est que c'est Amundi, à travers ce fonds d'épargne salariale, qui va investir dans des entreprises.
Ok, oui. Donc ça c'est les types de... Enfin, l'argent qui est investi via des actions, via des obligations par ces gestionnaires d'actifs, il vient... Donc principalement des épargnants qui sont les particuliers ou les salariés via de l'épargne salariale. Il y a d'autres types de flux ?
Ça peut être des particuliers. Après, il y a plein de personnes il y a plein d'acteurs qui épargnent. Ça peut être aussi des institutionnels qui épargnent. Ça peut être des fonds de pension. Donc là, c'est des sommes qui sont aussi différentes, mais les particuliers participent bien sûr à alimenter ces fonds.
Ok, donc c'est un petit peu tout le monde, quoi. Toute l'épargne qui existe, d'où qu'elle vienne.
Voilà, c'est ça.
Ok, ça marche. ces gestionnaires d'actifs, quand ils investissent, ils peuvent investir dans ce qu'ils veulent, donc y compris des projets d'énergie fossile?
Alors, les gestionnaires d'actifs investissent pas dans des projets, ils vont investir dans des entreprises. Du coup, c'est deux choses un peu différentes. Mais oui, en soi, ils sont pas forcément limités. Ils peuvent investir dans les entreprises qu'ils souhaitent. Après, il y a plein de gestionnaires d'actifs aujourd'hui qui ont une politique d'investissement qui s'applique à eux-mêmes en disant bah, j'investirai dans ce type d'entreprise, mais pas ce type-là. Et du coup, enfin, on voit des exclusions en fait dans les politiques d'investissement qui vont, enfin, qui peuvent porter sur plein de secteurs différents. Ça peut être le secteur de l'armement, ça peut être aussi le secteur des fossiles. Mais aujourd'hui, bah, les politiques qui sont mises en place par les gestionnaires d'actifs vont pas du tout assez loin quand elles existent sur les énergies fossiles. Sur le charbon, ça, enfin. Ça dépend des gestionnaires d'actifs, mais il y a certains gestionnaires d'actifs maintenant qui arrivent à répondre aux enjeux en arrêtant de financer des entreprises qui développent des projets de charbon. Par contre, sur le pétrole et le gaz, c'est absolument pas le cas.
Ok, d'accord. Et ça veut dire aussi que, en fait, quand on investit dans une entreprise, si elle a plusieurs activités, ben on ne sait pas si l'argent il est investi sur, je prends le cas de Total Energy, sur ben, les énergies fossiles ou sur les énergies renouvelables.
Non, c'est sûr. On ne peut pas flécher l'argent aujourd'hui. Donc, on considère que quand un gestionnaire d'actifs investit dans une entreprise comme Total Energy, c'est un peu comme un chèque en blanc. Après, du coup, Total Energy fait ce qu'il veut de cet argent. Et il y a beaucoup de gestionnaires d'actifs aujourd'hui qui se cachent sous le fait que ils investissent dans Total Energy parce que Total Energy serait un acteur de la transition. Aujourd'hui, nous, Reclaim Finance, on se base sur les chiffres. Pour 1 € investi dans le bas carbone par Total Energy, il y a 3 € qui vont dans les énergies fossiles, plus de 3 € et il y a plus de 4 € qui partent dans les poches des actionnaires. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'investissement de l'entreprise est beaucoup plus dirigé vers les énergies fossiles que vers les énergies renouvelables, on considère que c'est pas du tout une entreprise en transition. En plus, Total Energy continue de développer énormément de nouveaux projets de pétrole et de gaz, alors que c'est totalement en désaccord avec ce que nous dit le GIEC pour répondre à l'urgence climatique.
Oui, c'est ça. On entend beaucoup parler du projet de ICOP, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont développés, alors qu'en effet, tu viens de le dire, si on veut atteindre nos objectifs climatiques, on ne peut pas continuer à développer de nouveaux projets?
Ouais, tout à fait. En fait, il y a plein de projets. Il y en a un qui me vient en tête parce que il est très récent, très d'actualité. C'est le projet Papua LNG. C'est un projet qui est développé par Total Energy en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en fait, il comporte 9 nouveaux puits de gaz, un gazoduc qui est long de 320 km et qui passe par une mangrove. Et 4 trains de liquéfaction. La liquéfaction, c'est en gros ce qui permet au gaz de passer à l'état liquide et ça permet de le déplacer plus facilement. C'est un processus qui est complexe, qui est coûteux, notamment en énergie. Et pour ce projet-là, on craint qu'il y ait des impacts sociaux, au-delà des impacts environnementaux qui sont évidents. On craint qu'il y ait des impacts sociaux conséquents. Parce qu'il y a un projet similaire qui a été développé par ExxonMobil, le PNG LNG, et qui a déjà donné lieu, lors de ces dernières années à des violences entre les communautés et les forces armées, ainsi que, des lourdes violations des droits humains. C'est allé jusqu'à la torture, et du coup, enfin voilà, c'est vraiment craint par, et décrié par, les associations aujourd'hui, écologiques. Et même les communautés locales qui s'en inquiètent. Et par exemple, pour ce projet, Papua LNG, c'est Crédit Agricole qui est chargé d'accompagner Total Energy et les autres entreprises donc, qui participent à ce projet dans le montage financier du projet. Et ce montage financier, c'est évalué à plus de 10 milliards de dollars, c'est conséquent.
Ok, donc si je résume, pour empêcher de nouveaux projets d'énergie fossile de voir le jour, parce qu'on sait que ben, ces projets-là, ils vont pas dans le sens de la transition écologique et de la neutralité carbone. Un des acteurs les plus importants qui fait que ces projets ils peuvent exister, ce sont les acteurs financiers. Et ces acteurs financiers-là, ils ont de l'argent parce que, en tant que particulier, on place de l'argent, mais aussi en tant que professionnel, on place de l'argent chez eux. Et donc, c'est pour ça que l'épargne de l'épargne salariale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est exactement l'épargne salariale? Parce que ça ne concerne pas forcément tous les salariés. Et puis aussi, est-ce que, en termes de ratio, est-ce que c'est plus important que l'épargne des particuliers? Est-ce que c'est pareil? Combien ça représente?
Ça marche. Donc oui, l'épargne salariale, c'est quoi? C'est en fait, une entreprise peut décider de mettre en place un mécanisme de redistribution des richesses dans l'entreprise à travers une prime. Il peut s'agir d'une prime de participation, d'une prime d'intéressement. Donc là, c'est en fonction de l'accomplissement d'objectifs professionnels, par exemple. Ou en ce moment, il y a aussi, ça a été créé il n'y a pas longtemps, c'est la prime Macron, qui s'appelle maintenant prime partage de la valeur. Et là, le montant est librement décidé par, par l'employeur. Bref, à travers ces primes-là, le salarié a plusieurs choix. Soit les toucher directement, soit, si l'entreprise le propose, l'investir dans des fonds d'épargne salariale qui sont proposés du coup par l'entreprise avec des avantages fiscaux qui sont avantageux. Et du coup, combien de salariés ça représente en France? C'est quand même beaucoup de salariés parce que c'est un salarié sur deux. Ça représente 12 millions de salariés en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour beaucoup de salariés, ça a été la première fois qu'ils investissaient sur les marchés financiers. Parce que ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément d'assurance vie, de plan épargne action, etc. Et il y a un côté facile parce que c'est aussi l'option par défaut. C'est-à-dire que si un salarié ne réalise pas de choix en temps voulu, la prime est directement allouée sur un ou plusieurs fonds d'épargne salariale. Et du coup, c'est d'autant plus important de former ces salariés, ces nouveaux épargnants à ces sujets-là qui ne connaissaient pas forcément avant. Et donc, pour répondre à ta question, ça représente combien d'argent? Ça représente 162 milliards d'euros. C'est un montant qui est considérable. C'est trois fois le budget du ministère de la Transition écologique, pour te donner un peu un ordre de grandeur. Et puis, ce budget-là, il gagnerait réellement à être alloué du coup au service de la transition, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ok, parce qu'aujourd'hui, ces 162 milliards d'euros, ils sont investis comment?
Ils sont investis du coup au bon vouloir des gestionnaires d'actifs, on va dire. Et ce qu'on constate, c'est que 60% des fonds d'épargne salariale aujourd'hui investissent dans des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles. Ça peut être des centrales à charbon, ça peut être des puits pétroliers, des puits gaziers. Voilà.
Ouais, donc ce que tu me dis, c'est qu'en fait, moi, si je suis salariée dans une entreprise où mes primes, si je décide pas, elles sont mises automatiquement en épargne salariale, il y a peut-être 60% de chance pour que, en fait, je finance des centrales à charbon comme ça.
Ouais, c'est ça, totalement. Et finalement, le salarié, bien souvent, il n'a pas totalement le choix de financer des entreprises qui développent des projets d'énergie fossile aujourd'hui. Parce que même si on entend aujourd'hui de plus en plus parler de l'investissement responsable et qu'on responsabilise de plus en plus l'épargnant dans l'orientation de son argent, il y a un peu un danger à ça parce qu'on déplace la responsabilité d'un acteur financier, la responsabilité du gouvernement à une responsabilité individuelle où le salarié serait le seul responsable de l'allocation de son argent. Mais en fait, aujourd'hui, bien souvent, le salarié, il n'a pas de réelles alternatives.
Oui, en fait, soit tu prends ta prime, mais si tu veux l'investir, tu n'as qu'une seule solution qui est proposée par ton entreprise et tu peux pas choisir de faire autrement.
Alors souvent, ton entreprise te propose différents fonds et c'est là où peut-être que c'est important de préciser pourquoi il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui. C'est parce que déjà, ça se joue au niveau des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs qui gèrent l'épargne salariale aujourd'hui sont extrêmement peu nombreux. Le marché est extrêmement concentré. Il y a en fait presque 50% du marché qui est géré par Amundi, qui est aussi le premier actionnaire de Total Energy. Et il y a, on va dire, 5 gestionnaires d'actifs qui contrôlent 85% du marché. Donc c'est extrêmement concentré. Parmi les 5 acteurs, tu as Amundi, Natixis IM, BNP Paribas AM, Crédit Mutuel AM, AXA IM. Et en fait, les pratiques de ces acteurs vis-à-vis des énergies fossiles, elles ne sont pas du tout, mais alors vraiment pas à la hauteur. Et donc voilà, ça c'est le premier problème. C'est-à-dire que finalement, tu as une chance sur deux que tes fonds d'épargne salariale soient gérés par un acteur qui investit voilà, dans ses investissements dans des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles. La deuxième raison, c'est qu'au niveau des fonds d'épargne salariale qui te sont proposés, comme j'ai dit, il y a une majorité aujourd'hui des fonds d'épargne salariale qui investissent dans des entreprises controversées. J'ai également en tête la dernière étude d'Epsor, qui est une plateforme de distribution d'épargne salariale et qui indique que Total Energy apparaît comme la 5e entreprise investie dans les fonds d'épargne, tous secteurs confondus. Et au-delà de ça, il y a plusieurs fonds en fait qui sont commercialisés comme étant des fonds responsables, mais en fait quand on enlève le vernis de certains fonds dits d'investissement responsable, on se rend compte que c'est la même chose. Par exemple, il y a un fonds que j'ai analysé pour le compte d'une entreprise qui s'appelait BNP Paribas Action Euro Bas Carbone. Sur la fiche d'identité du fonds, c'était écrit que les contraintes environnementales et bas carbone étaient partie intégrante des contraintes de construction du portefeuille. Et finalement, en regardant ce qu'il y avait dans le fonds, dans les détails, il y avait 3 développeurs des énergies fossiles, Total Energy, Eni et Repsol. Et donc là, on peut se dire que même un salarié qui a toute la bonne volonté du monde et veut investir son argent de manière responsable, il faut encore qu'il aille creuser, vraiment regarder dans les détails pour être sûr que son argent est à l'abri de ces projets-là.
Ouais, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'y connais rien. Si je vois un label ISR, donc investissement socialement responsable, je vais faire confiance, je vais me dire c'est bon, ils font le travail pour moi de vérifier. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas forcément le cas.
C'est-à-dire que le cahier des charges aujourd'hui du label ISR, même si en ce moment il y a une refonte du label ISR et du coup c'est peut-être sur le point de changer, aujourd'hui le cahier des charges en tout cas n'excluait pas des entreprises comme Total Energy ou Repsol qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. Alors que, tu l'as dit toi-même, du coup, le GIEC, mais également l'Agence internationale de l'énergie, nous dit que pour limiter le réchauffement climatique en dessous d'1,5 degré, il faut cesser d'investir dans ces nouveaux projets d'énergie fossile.
Mm-hmm. Et la défense souvent des... De ce que j'entends, en tout cas, la défense des acteurs financiers, c'est de dire que finalement, il ne faut quand même pas être hypocrite parce que on utilise tous de l'énergie. La plupart des gens ont encore des voitures thermiques, donc il faut bien pouvoir les alimenter. Et donc, il faut continuer à financer ces entreprises-là. Est-ce que ça, en tout cas, pour les exploiter, pour les investissements qui ont déjà été réalisés pour les maintenir à niveau, pour pouvoir continuer à les utiliser et peut-être faire du démantèlement un jour. Voilà. Est-ce que ça, c'est, selon toi, un argument qui s'entend ?
Alors, oui, bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas... On n'a pas totalement transitionné au tout électrique, si c'est souhaitable, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les puits de pétrole et les puits de gaz qui sont existants, ils ont une durée de vie. C'est-à-dire que si on arrête d'investir dans des nouveaux projets fossiles, on n'arrête pas pour autant et on ferme pas pour autant du jour au lendemain tous les puits de pétrole et de gaz. C'est sûr que si on fait ça, sans doute que le monde s'arrête demain, s'arrête de tourner demain. Mais ce que nous dit encore une fois l'Agence internationale de l'énergie que je cite et qui n'est pas tout à fait des plus progressistes, notamment en termes d'écologie, a un scénario du coup 1,5 degré où il projette en fait de manière très, enfin, très scientifique, justement, cette trajectoire. Et en fait, cette agence nous dit que pour assurer les besoins énergétiques de la population mondiale, il n'y a aucun projet aujourd'hui d'extraction et même des projets du coup de terminaux gaziers qui sont nécessaires. Donc voilà, c'est vraiment là la différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, malgré donc ce constat, il y a, on va dire, 90%, voire 95% des entreprises des énergies fossiles qui continuent de développer des nouveaux projets alors qu'on n'en aurait pas besoin.
Ok, on est capable d'assurer une transition énergétique sans nouveaux projets.
C'est ça, tout à fait. Par contre, il faut investir au bon endroit.
Ouais. Ok, bon. Maintenant qu'on a dit ça, vous, l'objectif à Reclaim Finance, enfin, moi j'ai eu l'idée de parler de ce sujet-là, de l'épargne salariale, parce que j'ai vu votre tribune, donc vous avez fait une tribune avec d'autres acteurs, est-ce qu'on peut les citer ?
Oui, tout à fait.
Avec Printemps écologique, les collectifs, le mouvement Impact France pour un réveil écologique. Le but de cette tribune, c'était de dire, nous salariés et dirigeants des entreprises, on veut de la transparence sur ce que finance notre épargne salariale. Moi, ma question, alors, peut-être que la réponse est dans ma question finalement, mais c'est à quoi ça sert de faire une tribune pour parler de ce sujet-là ? En fait, enfin, ok, peut-être que ça permet à des gens comme moi de voir ce sujet-là et du coup de vous inviter sur des épisodes de podcast pour en parler, mais pourquoi vous avez choisi ce moyen-là pour amener le sujet ?
Eh bah... bien... C'est une super bonne question en vrai. Pour moi, cette tribune, elle était importante pour deux choses. La première chose, c'est que, en fait, il s'agissait d'une des premières fois en France que l'on exposait directement le rôle de l'épargne salariale dans le dérèglement climatique. Justement à travers le fait que 60% des fonds d'épargne salariale investissent dans des entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. Et également, de son pouvoir comme outil de la transition écologique. Et donc, comme tu dis, Cassandre, c'était un sujet que tu connaissais pas forcément avant. Je pense que beaucoup de lecteurs, c'était un sujet qui était encore inconnu. Donc, je pense que cette tribune, elle était importante pour cette raison. Et elle était aussi importante pour une autre raison, c'est qu'elle a servi de fédérer des chefs d'entreprise et des salariés autour d'un objectif commun. En fait, l'ambition, c'était vraiment de dire que ces acteurs, ils avaient intérêt à travailler ensemble afin de proposer une épargne salariale responsable qui serait alignée aussi bien sur les préoccupations des salariés que sur la raison d'être de beaucoup d'entreprises.
D'accord, ouais, finalement, une tribune, ça sert en effet à ce que des personnes aient connaissance du sujet, ce qui a été mon cas et le cas d'autres personnes, et une tribune à plusieurs, ça permet de peser aussi, je suppose, dans le débat et de se mettre d'accord sur des objectifs communs.
C'est ça. Tout à fait. Et du coup, ça a permis justement à ce collectif-là que tu citais avant de créer un site internet commun qui s'appelle épargne salariale pour le climat.org et qui est un petit peu la boîte à outils pour les salariés et les chefs d'entreprise qui veulent mettre en place une épargne salariale responsable au sein de leur entreprise. Sur ce site internet, d'ailleurs, il va se passer plein de choses en octobre prochain. Du coup, je ne sais pas vraiment à quelle date les personnes écoutent ce podcast, sur ce site internet, il y aura vraiment une boîte à outils détaillée qui permettra d'accompagner les différents acteurs, donc je disais salariés, chefs d'entreprise, dans trois étapes clés pour mettre en place cette épargne. C'est la compréhension, d'abord la compréhension des enjeux, justement en faisant analyser ses propres fonds d'épargne salariale, en se renseignant sur les pratiques de son gestionnaire d'actifs. Le deuxième grand volet, ça va être en sensibilisant, comme on l'a dit, c'est un sujet aujourd'hui qui est un peu technique, qui est pas très sexy, et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont pas forcément au courant. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser ses collègues, de sensibiliser les représentants de salariés, la direction à ces sujets-là. Et puis, il y a un dernier volet qui est le volet action, où là, on s'organise vraiment pour mettre en place une épargne salariale différente. Alors, ça peut être en passant par un autre gestionnaire d'actifs qui serait plus responsable, mais ça peut être également en interpellant son gestionnaire d'actifs existant, en envoyant des lettres, en rédigeant un cahier des charges qui est très strict au niveau de ce qu'on demande à ce gestionnaire d'actifs-là. Enfin bref, il y a plein de manières d'agir.
Ok, et par exemple, la boîte à outils, elle va nous aider à rédiger ses lettres et ses cahiers des charges stricts avec les clauses qui sont importantes.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Trop bien. Ok, bon bah, je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas noté. Trop bien. Et justement, je voulais qu'on parle des solutions face à ce constat-là, un peu de manque de transparence et de manque de choix. Tu nous as dit que tu as accompagné des entreprises et des salariés. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles ont pu changer, ces entreprises? Est-ce que c'est une démarche qui est compliquée? Enfin, à quoi il faut s'attendre? Est-ce que c'est long? Est-ce que... Bah, tu vois, il y a un peu des arguments que les gestionnaires d'actifs vont nous donner qu'on va penser acceptables alors qu'en fait, ça déguise autre chose. Enfin, voilà, c'est, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe quand vous accompagnez des entreprises pour essayer d'analyser leurs fonds et de faire changer les choses?
Donc, en effet, aujourd'hui, on accompagne en tout et pour tout une trentaine d'entreprises, enfin plutôt... On accompagne des salariés d'une trentaine d'entreprises et ça grandit encore. On a notamment beaucoup de grands comptes dans ces 30 entreprises, mais on a aussi quelques petites entreprises et on invite vraiment tout le monde à nous contacter pour justement bénéficier d'un accompagnement sur ces sujets. Ça fait pour l'instant que depuis mars dernier qu'on accompagne des entreprises. L'entreprise, enfin une épargne salariale, ça ne change pas pour tout en un jour. Donc forcément, ça prend du temps. Néanmoins, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. Il y a une lettre qui a été envoyée par une entreprise à son gestionnaire d'actifs. Il y a plusieurs présentations, à la fois à destination des salariés de l'entreprise pour les former, mais aussi à destination des représentants du personnel qui ont en fait vraiment un rôle à jouer dans justement la mise en place de l'épargne salariale qui ont été mises en place. Il y a aussi une réflexion du coup en cours sur un cahier des charges pour préparer un prochain appel d'offres. Et puis, enfin, il y a surtout eu beaucoup, beaucoup de sensibilisation. En fait, on a décrypté l'épargne salariale de ces 30 entreprises. Donc souvent, ce que ça crée, c'est souvent une déception. Enfin, une déception quand on analyse les fonds. Les salariés sont souvent bien étonnés des entreprises qu'ils peuvent retrouver dans leur fonds qu'ils pensaient être le plus engagé. Donc je pense que cette analyse-là, elle permet déjà de poser un état des lieux. Et puis, à partir de ce constat, de mobiliser les bonnes parties prenantes dans l'entreprise pour faire bouger les choses. Donc pas mal de choses mises en place, mais c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup de pédagogie encore aujourd'hui. Et puis tu me demandais aussi sur les obstacles ou alors
Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que dans ton expérience, il y a des arguments auxquels les salariés n'ont pas forcément su répondre sur le coup ou des obstacles qu'ils ont rencontrés? Et voilà, est-ce qu'on peut servir de leur retour d'expérience pour les contourner?
J'en vois surtout un, c'est que c'est un sujet qui est encore un peu brumeux, donc qui demande beaucoup de pédagogie. Donc avant de révolutionner l'épargne salariale dans son entreprise, surtout quand on est dans une grosse entreprise, il faut faire énormément de sensibilisation. Et au-delà de ça, c'est un sujet qui peut aussi tendre certaines relations dans l'entreprise et il est vraiment important d'en discuter en amont, notamment d'agir aux côtés des représentants du personnel qui sont légitimes pour agir sur ces sujets. Et c'est ce qu'on encourage toujours en premier lieu, c'est vraiment d'en discuter avec les représentants du personnel parce que c'est les plus à même en fait à changer les choses ou en tout cas c'est ceux qui sont les plus à même à négocier avec la direction pour... pour essayer de changer le gestionnaire d'actifs ou changer le contenu des fonds, etc.
Ouais, justement, c'est une question que je voulais te poser. Tu parles de, il faut de beaucoup sensibiliser, de faire beaucoup de pédagogie. Est-ce qu'il y a des acteurs en priorité avec qui il faut échanger? Donc, je comprends qu'il y a les représentants du personnel. Et après, peut-être au niveau direction, avec qui est-ce qu'il faut discuter de ça?
Et finalement, ça va être représentant du personnel, et après, ça va être la direction au sens large qu'il va falloir solliciter. Il y a pas forcément d'acteurs privilégiés, ça dépend vraiment du contexte de chaque entreprise. C'est compliqué de donner une règle qui marche pour toutes les entreprises, mais pour certaines entreprises, ça va être plutôt le RH qui va être spécialisé sur cette question. Dans d'autres entreprises, ça va être plutôt le responsable développement durable qui va se saisir de ce sujet. Donc, faut aussi savoir identifier ses alliés en interne, mais voilà.
Oui, d'accord, ok, ouais, c'est pas, ça dépend de chaque entreprise, c'est pas forcément les RH qui gèrent ce sujet-là.
Non,
Ou le
non, non, ça
DAF, ok.
dépend vraiment.
Ok. Et concrètement, donc on a dit qu'il y a quelque chose à éviter, c'est que l'argent de l'épargne salariale, elle aille financer de nouveaux projets d'énergie fossile. Mais dans la tribune, l'objectif, c'était aussi de dire on veut que notre argent, il finance la transition écologique. Et là-dessus, est-ce que tu as des recommandations à faire pour que cet argent il soit bien placé et placé dans cet objectif-là?
Et pour ça, on a réfléchi du coup avec le collectif à un manifeste sur l'épargne salariale au service du climat qui définit un petit peu les différents critères qu'on demande à nos gestionnaires d'actifs et à nos fonds pour qu'ils soient réellement investis en faveur de la transition écologique. Et donc, ce manifeste, il comporte trois piliers. Le premier, c'est avoir des fonds d'épargne transparents, parce que la transparence, c'est la première étape essentielle afin de s'assurer que celles-ci soutiennent les secteurs de la transition. Aujourd'hui, accéder à la composition des fonds, c'est encore une démarche trop laborieuse. L'idée, c'est vraiment que les gestionnaires d'actifs développent des outils de vulgarisation, notamment un indicateur qui te permettrait de savoir d'un coup d'œil si un fonds est exposé à des entreprises controversées ou non. Donc, c'est vraiment faire un gros travail au niveau de la transparence. Le deuxième pilier, c'est vraiment avoir des fonds d'épargne salariale aujourd'hui qui ne nuisent pas au climat. C'est vraiment la première règle d'or avant même d'investir dans des secteurs de la transition écologique. Ça, il y a plein de gestionnaires d'actifs aujourd'hui qui proposent des fonds qui investissent en direction de la transition, mais en fait, d'une main, ils font ça, et de l'autre main, dans le même fonds, ils vont investir dans des acteurs qui sont pas forcément très, très, très vertueux. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on ne veut pas, dans nos fonds d'épargne salariale, voire d'entreprises qui développent des projets fossiles, que ce soit des mines, des infrastructures, des centrales à charbon, ou alors des nouveaux champs et infrastructures de pétrole et de gaz. On exclut de principe toutes ces entreprises qui développent ces projets qui sont incompatibles avec l'urgence climatique de nos. Et le troisième pilier, c'est avoir un gestionnaire d'actifs réellement engagé. Parce que l'épargne salariale, ça représente qu'une partie des montants investis par un gestionnaire d'actifs. Et du coup, on veut que notre gestionnaire d'actifs s'engage concrètement à user de son influence auprès des entreprises pour les faire évoluer. Et voilà.
Ok, donc transparence, ne pas nuire et être réellement engagé, c'est les trois piliers du manifeste pour une épargne salariale qui va être au service du climat.
Tout à fait.
Je me demandais, une épargne salariale qui correspondrait à ces critères, est-ce que un obstacle, ça peut pas être de dire qu'elle va être moins rémunératrice, parce que je suppose que les banques traditionnelles investissent dans les énergies fossiles parce que ça rapporte. Est-ce que avoir une épargne au service du climat, ça va être perdre de l'argent au final?
Alors, chez Reclaim Finance, on n'est vraiment pas des conseillers financiers, donc j'aurais un peu du mal à te répondre, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que investir dans les énergies fossiles, ça rapporte plus, et il y a des études qui prouvent le contraire. Majoritairement, les études s'entendent sur le fait que ne pas investir dans des entreprises controversées, c'est être plus résilient en temps de crise. Mais voilà, je ne m'étendrai pas sur l'aspect financier parce que tout simplement, ce n'est pas ma spécialité.
Oui.
Et voilà, il y a des conseillers financiers qui seront beaucoup mieux que moi à faire ce travail.
Ok, d'accord. Mais ça veut dire que voilà, si c'est un argument qu'on nous oppose, bah on peut trouver des personnes pour y répondre ou des études.
Tout à fait.
Ça marche. Une dernière question sur le sujet, si on veut bah voilà, commencer à sensibiliser dans son entreprise sur le sujet, donc en tant que salarié, qu'est-ce qu'on peut faire en première. En première étape, en première démarche, si on voilà, on sait qu'on a de l'épargne salariale dans notre entreprise et qu'on veut ben, aller voir si, ouais, comment elle est, ce que ça finance exactement, et si on veut en parler autour de nous, quelle est la manière que tu nous conseillerais d'utiliser pour faire ça un peu dans la douceur, surtout quand on n'est pas des grands connaisseurs.
Et bah du coup, je vous encourage à aller sur le site Épargne salariale pour le climat. Il y a un formulaire contact qui permet de me contacter directement. Et souvent, la première étape qu'on peut faire ensemble, c'est analyser vos fonds existants et essayer de comprendre un petit peu les enjeux autour de ça. C'est vraiment voilà ce qui va permettre. C'est un document qui va permettre aussi de rassembler dans votre entreprise et de commencer à faire parler. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose à mettre en place.
Ok, très bien. Et puis ça répond à ma question de comment on fait pour te contacter. Donc sur le site épargne salariale pour le climat.org, il y a un formulaire contact. Et à partir de là, on n'est plus seul.
C'est ça.
Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as données. J'ai quand même coutume de terminer par une dernière question qui peut être d'ordre plus général. Mais voilà, le podcast s'appelle Écolo au boulot. Donc quel conseil est-ce que Écolo au boulot, est-ce que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent?
Bah du coup, mon conseil, c'est peut-être de continuer à s'interroger sur le rôle du salarié et de l'entreprise dans la transition écologique. Mais du coup, je pense qu'en continuant d'écouter ce podcast, on est sans doute bien parti. Et puis, bah, sans oublier le levier financier. Voilà, on a parlé d'épargne salariale, mais il y a également le sujet de la trésorerie, par exemple, pour l'entreprise, qui mérite d'être interrogée. Par quelle banque passe mon entreprise pour ses services bancaires? Et puis, si je peux un peu prêcher ma paroisse, c'est aussi de voir au-delà de l'entreprise, la finance, elle est partout. On peut faire plein d'actions. On peut changer de banque, on peut s'interroger sur l'impact de son assurance vie, de son assureur. C'est pas, par exemple, la même chose d'être chez AXA ou d'être à la Maif. On peut même interpeller les élus locaux sur le choix du prêteur des collectivités. Bref, il y a plein de leviers d'action possibles. Et du coup, j'en profite pour mentionner un autre site internet qui s'appelle change-de-banque.org et justement qui permet à tous les acteurs, enfin peu importe si vous êtes du coup un chef d'entreprise ou juste un particulier ou si vous voulez vous interroger sur les sujets de collectivité, peu importe votre profil, on vous accompagne pas à pas dans justement bah, le passage à l'action.
Trop bien. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces ressources complémentaires qui vont voilà, nous donner un petit peu d'analyse personnelle et de notre entreprise à faire. Merci beaucoup, Julie.
Merci à toi, Cassandre.
En terminant cet épisode, je me dis vraiment que, comme souvent, on fait mal sans le savoir. Mais forcément, la finance, c'est un sujet compliqué, on ne s'y intéresse pas trop, et du coup, les acteurs, ben, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le rôle des salariés et des dirigeants pour rediriger l'épargne salariale au profit du climat, et pas le contraire, est extrêmement important. Et bien plus important en termes d'impact que nos éco-gestes du quotidien, je crois. Bon, on continue d'être cohérent avec nos éco-gestes, hein, mais prendre conscience de notre pouvoir sur des aspects plus éloignés, plus stratégiques et structurels comme la finance, c'est incontournable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, à son niveau, Comme souvent, on commence par se confronter au sujet, à comprendre les enjeux et aller se renseigner sur notre fonds d'épargne salariale. Ensuite, niveau 2, on peut aller en parler à des collègues, aux représentants du personnel, aux membres de la direction qui, très probablement, n'étaient pas au courant non plus de l'utilisation de l'épargne salariale. Et enfin, niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, vous pouvez solliciter votre gestionnaire d'actifs pour lui demander des détails sur les placements, ou alors en choisir un autre qui va mieux répondre aux 3 critères indispensables d'une épargne salariale qui va être vraiment au service du climat. Ces critères, c'est la transparence de votre fonds, le fait de ne pas nuire à l'environnement, et donc de ne pas financer de nouveaux projets d'énergie fossile, et être réellement engagé pour la transition écologique. Pour tout ça, vous pouvez aller sur le site épargnesalarialepourleclimat.org, c'est tout attaché, et utiliser la boîte à outils ou solliciter Julie directement qui pourra vous accompagner. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo, parce qu'il était quand même un peu technique, donc félicitations. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir », publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao !